Vous écoutez Entre nous soit dit. Aujourd'hui, on s'interroge sur la liberté de disposer de son corps. En France, cette liberté est encadrée par l'article 16-1 du Code civil. Celui-ci stipule notamment « Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. » On réduit très souvent ce droit à celui d'utiliser une contraception ou d'interrompre une grossesse, mais on oublie la possibilité d'enfanter selon les modalités que l'on aurait choisies. On remarquera au passage que ces libertés s'appliquent principalement aux femmes et ça interroge sur la différence de rapport que l'on exige, ou pas, sur les corps des unes plutôt que celui des autres. On ajoutera aussi que la douceur du récit n'enlèvera pas la violence des faits. On saluera au passage le courage de notre invitée d'avoir tenu autant qu'elle pouvait ses convictions et d'avoir, comme elle le dit, senti ce qu'elle avait à faire. Car si aujourd'hui les violences obstétricales et gynécologiques sont reconnues, le découragement et le jugement facile et non fondé porté sur les femmes qui accouchent à domicile constituent également une de ces violences. Les sages-femmes qui effectuent ces accouchements sont peu nombreuses. Et pour cause, entre assurances qui ne couvrent pas à prix raisonnable ces interventions, ordre des sages-femmes réticents et manque de soutien du corps médical, elles se rémunèrent peu et prennent le risque de se voir retirer leur travail. Courage et bravo à elles, et merci pour toutes celles qui en bénéficient et pour leurs enfants nés dans la douceur d'un foyer. On me chuchote d'ailleurs à l'oreille que notre invitée vous recommande très chaudement la lecture du livre « Pour une naissance sans violence » de Frédéric Le Boyer, et c'est aux éditions Point. Sans obligation, mais non sans pression, le récit d'une venue au monde, devenue aujourd'hui atypique.
J'ai 40 ans, j'ai 3 enfants. Ça fait longtemps que je suis ici. Je suis arrivée par hasard, j'avais 16 ans. Et puis, je suis repartie, je suis revenue et je me suis installée ici pour la qualité des écoles, notamment. Parce qu'en fait, les écoles sont petites, avec des petites classes, et les enfants sont plutôt bien. Et je suis dans le Couserans depuis 2010-2011. Je suis tombée enceinte la première fois, j'avais 20 ans. J'ai perdu mon bébé... À 7 mois et demi de grossesse, le cœur s'est arrêté, ou on ne sait pas trop ce qui s'est passé. En tout cas, la grossesse s'est arrêtée. J'ai dû accoucher à la maternité 2 fois, par voie basse, d'un enfant mort à 20 ans. Je n'étais pas vraiment préparée. Et je crois que ça m'a un peu traumatisée. L'accompagnement était sommaire et même voire sordide à l'époque. Et quand j'ai eu ma deuxième fille, je ne voulais pas voir de médecin. Déjà à l'époque... ça m'avait pas mal traumatisé, cette expérience. Avant d'avoir ma grande qui a 18 ans, j'avais pas de sécurité sociale, donc mon rapport à la médecine, il est nul. Enfin, je l'utilise pas, quoi. Je prends même très peu de doliprane, quasi jamais, quoi. Je prends jamais de médicaments. Bah du coup, ma grande, la grossesse, j'avais 21 ans. Et ça s'est plutôt bien passé. J'étais super en forme. J'étais très heureuse de vivre cette grossesse. Mais je ne voulais pas avoir de médecin. À l'époque, on était en camion. Et je voulais accoucher toute seule dans mon camion, à l'époque. Et bon, les choses ont fait que non. J'ai accouché à la maternité. Mais on m'a conseillé une maternité labellisée « Amie des bébés » parce que j'étais tellement... réfractaire à l'idée de voir des médecins, mais j'ai été très bien accompagnée dans cette maternité. Quand même, on m'a fait peur en me faisant croire que le bébé était trop petit, donc on m'a déclenché l'accouchement, et je pense qu'à l'époque, j'étais trop jeune, j'avais pas conscience que l'ocytocine de synthèse et que ça allait être si douloureux. Moi, je voulais pas de péridurale, je voulais faire quelque chose de naturel. En fait, j'ai souffert, j'ai eu très mal, j'ai fait que de crier. Enfin, c'était folklore quand même. C'était un sacré moment. Pour la seconde, c'était différent, c'était complètement différent. Je travaillais pas mal, et puis j'étais installée dans la région déjà. Et du coup, je travaillais beaucoup, elle est née avec 1 mois d'avance. En fait, les circonstances ont fait que moi, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle arrive maintenant, et j'ai fait un suivi minimum. à Saint-Géron, au Chac. Là, c'était sûr que je ne pouvais pas accoucher chez moi, avec la grande qui avait 5 ans, le conjoint qui n'était pas du tout prêt à vivre une expérience comme ça. Donc, on est parti à la maternité. Et quand même, ça a été bien joué aussi, parce que j'ai fait un début d'hémorragie. En fait, ça a été pris vraiment très au sérieux. Ça a été super. Le suivi a été très bien aussi, en fait. Les sages-femmes présentes, sympas. Non, rien à dire. Et bah, le petit dernier, c'est la petite cerise sur le gâteau. Hein. Je pensais pas avoir un troisième enfant. Et puis, je n'ai pas su prendre d'autres décisions que d'avoir ce troisième enfant. Donc, c'était pas un projet parental. Il n'y avait pas de projet parental. C'était plutôt un bébé surprise. Et on a essayé d'accueillir au mieux la petite surprise. Après l'annonce de la grossesse, j'ai voulu commencer un suivi. Mais bon, le papa n'était pas super chaud pour faire un suivi. C'est trop contraignant. C'est vrai que le suivi qu'on me proposait, c'était des prises de sang pour la toxo, un suivi tous les mois, avec un espèce de contrat avec la sage-femme. Faut signer le contrat pour dire qu'on sera bien là. Enfin, c'était quand même assez... Il y a un peu de pression là-dedans quand même. Il faut être au rendez-vous, il faut être là, il ne faut pas rater les rendez-vous. Donc, oui, j'avais envie de pouvoir parler de cette grossesse avec un professionnel de santé. Je trouvais que c'était important pour moi, ça. Mais c'était pas facile à mettre en place parce que c'est pas toujours évident. Les échographies, c'est très invasif, c'est des fois douloureux, surtout celle du premier trimestre où parfois on voit pas bien. Alors on va appuyer sur le ventre, on va chercher à voir quand même. Ouais, c'est pas des bons moments, c'est pas des bons souvenirs, non. J'avais un rendez-vous le deuxième trimestre. Un long rendez-vous, c'est un rendez-vous d'une heure et demie où on parle du projet parental et tout ça. Le papa est invité. Voilà. Et il se trouve que j'ai pas dormi de la nuit la veille. Ça a été un peu compliqué pour moi la veille au soir et le lendemain, j'étais pas bien du tout. Donc j'ai préféré annuler le rendez-vous. Et c'est vrai que c'était un peu... j'ai annulé le jour même, quoi. Mais je trouvais que moi, j'étais pas en état d'y aller, de faire une heure et demie de rendez-vous... Et oui, elle m'a appelée pour me dire que ça se faisait pas, on n'annulait pas un rendez-vous au dernier moment, qu'elle était libérale et qu'on n'annule pas un rendez-vous à la dernière minute. Donc elle m'a aiguillée sur une autre sage-femme de la PMI que j'ai dû contacter. Il me semble que je lui ai laissé un message sur son répondeur où on a dû se contacter une fois, mais que j'ai jamais vu. Comme le papa était pas chaud pour faire un suivi déjà, c'était un peu compliqué parce que moi je me sentais pas épaulée. Et puis là, il se passe ça. Bon, je vais pas me battre contre des moulins à vent. J'ai pris les choses comme elles sont venues. Hein. Et donc, on a arrêté le suivi. Et voilà. C'est très difficile à trouver des sages-femmes qui viennent accompagner l'accouchement à domicile. Parce qu'il y a des soucis d'assurance, en fait. Parce que finalement, le gouvernement français met vraiment des bâtons dans les roues aux sages-femmes. C'est pas très bien vu en France, alors que dans d'autres pays, c'est plutôt courant. Enfin, on a le choix, en fait. Ici, en France, c'est compliqué. Elles prennent des risques, elles sont très peu payées. Il faut savoir qu'il faut payer quand même une sage-femme qui vient vous accompagner à domicile. C'est 1 500 € à peu près la prestation. Mais en fait, ces 1 500 € ne servent qu'à couvrir les frais d'assurance de la sage-femme qui augmentent de presque 100% pour un accouchement à domicile. Les sages-femmes ne sont pas du tout aidées pour accompagner les femmes à accoucher à la maison, en France en tout cas. Et bien, la préparation à l'accouchement... ça a été assez, assez animal. Le papa, il avait déjà accouché une femme à la maison, donc il avait son idée à lui. Et puis bon, on était un peu chacun dans nos sensations. Donc moi, je me demandais si je voulais être à quatre pattes, machin. Je savais pas dans quelle position, s'il fallait que je prenne beaucoup de couverture. Donc je me suis fait un petit coin, seule, dans une chambre. Je me suis fait un petit coin. Et puis j'ai été à la pharmacie quand même chercher des alaises. Je voulais chercher de quoi clamper parce qu'on ne voulait pas couper le cordon. C'est des choses qu'on s'était dit ensemble. On voulait faire un petit bébé lotus. Laisser le placenta dans une bassine reliée au cordon et laisser sécher naturellement. Et comme je n'avais jamais fait, je voulais quand même préparer de quoi clamper, de quoi couper si je trouvais ça louche à un moment. En fait, c'est vachement bien, ça, parce que le cordon, il y a les influx, il y a encore du sang qui passe, il y a encore pas mal de choses qui passent, et ça qui a nourri le bébé, et ça sèche assez vite, enfin, c'est assez beau. C'est assez beau à voir, c'est une super expérience, vraiment. Mais en fait, on ne sait pas si on aura envie d'être sur un ballon, si on aura envie d'être sur une baignoire, on ne peut pas le deviner à l'avance, on ne peut pas le préparer, ça. Et le fait d'être avec soi-même, seul avec soi-même dans ce moment-là, c'est très doux, en fait. C'est très serein, c'est très doux, c'est très enrichissant. Et même, je pense, pour l'enfant, les premières heures de l'enfant, on l'a pas mis sur une balance, on l'a pas pesé, on l'a pas... Bon, parce que c'est violent de sortir d'un milieu sans oxygène, un milieu anaérobie, dans l'eau, dans le calme, dans le cocon du ventre et tout. Et là, on sort, il fait froid, on coupe le cordon, on coupe l'alimentation qui nous a alimentés pendant 9 mois, vous vous rendez compte, c'est pas rien quand même. On parle des traumatismes de ci, de là, mais alors celui-là, le tout premier, attention, c'est la première cicatrice, le nombril. Hein. Donc bon, pourquoi on n'aurait pas pu faire quelque chose de plus doux au démarrage? On a essayé de faire ça en fait, on a essayé pour l'enfant d'avoir une arrivée un peu moins brutale dans ce monde-là, quoi. Et voilà, et puis après, moi j'ai eu des contractions presque 3 semaines avant la naissance, donc un petit peu tous les jours. Donc on ralentit le rythme, on s'écoute. Et puis après, je ne savais pas préparer, difficile de préparer, parce que les sensations qu'on a au moment de l'accouchement, on ne sait pas si on est mieux assis, si on est mieux à quatre pattes, en fait, en fonction du bébé, comment il se place, et nous-mêmes, c'est faut le vivre pour savoir, c'est un peu de l'impro, quoi. J'étais bien, j'étais sur mon petit espace, mon petit matelas, et je sentais toutes les contractions, et il n'y avait pas de stress, ça c'était génial. Si, il n'y avait pas de lumière forte, pas de bruit, en fait, j'ai pas mis de musique ni rien. Mais surtout pas de stress, pas besoin de prendre la voiture, de faire une valise, d'aller à Saint-Jérôme, d'expliquer. Non, il y avait juste à être là et à sentir les contractions arriver. Et ça vraiment, c'était vraiment super à vivre, de juste vivre le moment et d'être là, présent dans ce moment-là. De se laisser pleurer parce que ça commence à être vraiment douloureux, mais de se dire ok, allez, on y va, c'est le bon timing, c'est le bon moment. Ouais, ça c'était vraiment chouette. Après les contractions, elles se sont intensifiées. J'ai quand même voulu aller prendre un bain. J'ai la chance d'avoir une baignoire, donc je me suis dit peut-être s'allonger dans l'eau chaude, ça va calmer un peu parce que c'est quand même assez intense. Hein. C'est difficile de se mettre à l'aise dans une baignoire, donc je ne pouvais pas rester assise, donc je me suis redressée. Et en fait, tout s'est fait naturellement. J'ai perdu le bouchon muqueux et la poche des os, en fait, dans la baignoire. Je me suis laissée faire le corps, en fait. Mon corps a fait comme il l'a senti. Je me suis pas dit... je me suis rien dit, en fait. J'ai laissé le corps faire. À un moment, j'ai dû me redresser. Je me sentais pas bien dans la position. Je me suis redressée. Et hop, poup, la tête est sortie. Moi, j'avais peur qu'il soit emmailloté dans le... C'était un enfant quand même assez actif, in utero. J'avais peur qu'il soit emmailloté dans le cordon. Donc la seule indication que j'avais donnée au papa, c'est surtout, vérifie que le cordon ne soit pas autour du cou. Voilà, ça m'inquiétait un peu. Et hop, la tête est sortie. Je ne poussais plus. J'ai senti la tête sortir, puis tout le reste est sorti. Le papa a accueilli le bébé. Dans mon dos, du coup, je ne voyais pas, moi. Et hop, on s'est mis le petit sur moi. Et hop, on s'est remis dans la baignoire avec la couverture. Le placenta ne sortait pas. On ne s'est pas affolé. Personne ne s'est affolé. On ne m'a pas appuyé sur le ventre pour m'obliger à faire sortir le placenta ou je ne sais quoi. Non, comme le placenta sortait pas, j'ai voulu, moi, sortir de la baignoire. Je suis allée me reposer dans la chambre avec le bébé. Et en fait, plusieurs heures après, il a tété. Et quand enfin on a réussi à se détendre et à se reposer, je me suis mis à genoux, le placenta. Il est sorti tout seul. Il n'y a pas eu vraiment, il y a eu rien de ni de violent, ni de forcé, ni... Oh là là. Et ça, c'est... Ah, ça, c'est vraiment chouette. Ça s'est passé sans encombre, c'est sûr. C'est sûr, il y a des risques, mais en fait, le risque, il est partout. Donc là, c'est sûr, on n'a pas d'équipe médicale à côté. Et puis en plus, s'il fallait partir en urgence à Saint-Girons, on a quand même un petit peu de temps de route. Bon. C'est vrai, mais... Mais moi, je pense pas à tout ça à ce moment-là. Je me dis pas ça du tout, en fait. Je suis pas du tout dans une énergie de me dire « Oh là là, on prend des risques et machin. » Non, non, j'essaye de me détendre un maximum pour que... Le travail ne dure pas très longtemps et je suis sûre que tout va bien se passer. Et d'ailleurs, mes deux grandes, elles ont mis 10 heures à arriver à peu près, toutes les deux en maternité, que lui, il a mis 5 heures. Moi, pour mes premières, j'avais très peur de l'épisiotomie. À chaque fois, je leur disais, ne me faites pas d'épisiotomie. L'épisiotomie, on vous coupe l'entrée du vagin avec un scalpel pour éviter un déchirement qui peut arriver. Hein. Il peut arriver que la peau se déchire. Moi, je ne voulais pas qu'on me découpe et qu'on me recouse et tout ça. Donc, c'est des trucs qu'il faut penser alors qu'on est en train d'accoucher. Il faut penser à leur dire « Ah, ne me coupez pas. » Ah, là, il n'y a pas eu tout ça. C'était vraiment juste très intime, en fait. Ce moment intime qu'on nous vole, enfin, qui est quand même un peu volé par les machines, le monitoring... on va regarder à combien vous en êtes, le col, l'ouverture du col. Bon, c'est vachement intrusif, en fait. On se rend pas compte parce que c'est normalisé. Mais quand on est tout seul avec soi, ben on retrouve un certain pouvoir quand même et ses responsabilités aussi. Parce que là, c'est sûr, s'il y a un problème, bah, c'est nous. On ne peut pas se retourner contre un médecin. On ne peut pas se retourner contre qui, contre quoi. Bah non. En fait, on est pleinement responsable du chemin qu'on prend. Et ça, ça c'est important. Bah, déjà, quand le petit il est sorti, j'ai quand même halluciné que je n'ai pas eu besoin de pousser pour qu'il sorte. J'étais en position demi... presque debout, enfin les jambes droites et puis le haut du corps un peu penché vers l'avant, et j'ai pas eu besoin de pousser, poup, il est sorti. J'ai pas eu ni mal ni déchirure ni rien du tout. On me l'a posé sur moi. Je savais pas le sexe de l'enfant puisque du coup j'avais pas fait de suivi, je n'ai même pas regardé. J'ai dit au père, c'est un garçon ou c'est une fille? Il m'a dit, mais on s'en fout, c'est vrai, on s'en fout, j'ai la couverture, le petit, j'ai fait, oh waouh, quelle perfection, et voilà, c'est tout ce que je me rappelle. Après, je suis montée, j'avais froid, j'étais me mettre dans mes draps, et voilà, et j'ai su que c'était un petit garçon, le lendemain, je pense. C'était un peu animal quand même, hein. C'était assez sauvage, quoi. Et c'était bien aussi comme ça. Jeudi à 3h, vendredi matin, j'ai appelé la mairie de mon village qui était au courant que j'avais accouché chez moi. Moi, j'ai pas tout. Enfin, la pharmacie était au courant. Bon, j'ai appelé la sage-femme de la PMI pour que. En fait, je voulais appeler quelqu'un qui vienne voir le petit chez moi pour prendre les constantes, voir que tout va bien, comme on faisait exactement à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Hein. Le père de mes grandes, lui, il est né à la maison et le médecin traitant venait voir les constantes des enfants. Enfin, ça se faisait. Il a 50 ans et ben, voilà. Donc, assez naïvement, j'ai appelé la mairie pour savoir quel genre de papier il fallait amener. Et puis leur dire que tout allait bien, qu'on était contents, que le petit était arrivé et tout. C'était un peu jour de fête, quoi. La nana de la PMI était un peu prise, elle m'a dit qu'elle pouvait venir que lundi, et finalement j'ai appelé mon médecin traitant, mais tout à fait naïvement en fait, hein. J'ai appelé mon médecin traitant que je connais depuis longtemps, pour lui dire ça y est, le petit est là, tout va bien, on est content, est-ce que vous pouvez venir l'ausculter? Ah mais non, on fait pas comme ça, il faut aller voir le pédiatre, c'est le pédiatre qui fait les papiers. Donc ok, moi j'étais plutôt partante pour aller voir le pédiatre pourvu qu'on soit débarrassé de cette corvée de papier qui moi me semble indispensable quand même de faire, de déclarer l'enfant en mairie. Et donc pédiatre, moi j'étais chaude pour y aller mais le papa pas du tout, donc il y a eu un petit couac à ce moment-là. Et puis comme on était vendredi et que j'avais toujours pas ni dormi ni mangé, je me suis dit que j'allais peut-être un peu me reposer. Mais en fait, la PMI a téléphoné, a insisté, a téléphoné parce qu'il fallait absolument qu'on aille à l'hôpital faire voir le bébé parce qu'il risquait une infection et qu'il pouvait mourir en 15 minutes. Non mais. Et voilà, donc ils ont insisté tant et si bien que moi j'aurais dit que non, qu'on allait d'abord se reposer, mais que oui, on irait. Oui, oui, on irait. Après le week-end, on irait à l'hôpital faire voir le petit. Elle a fini par nous dire. Bon, bah, j'en réfère au procureur de la République et lui, je vous assure qu'il rigole pas. Donc je l'ai questionné, je lui ai demandé ce que ça voulait dire. Est-ce qu'on allait me prendre mon enfant? Elle m'a dit, on va peut-être pas vous prendre votre enfant, mais demain matin, il y aura les gendarmes à votre porte. Et ils n'ont pas attendu le lendemain matin pour venir frapper à la porte, ils sont arrivés le soir même à 21h30. Donc vendredi matin, j'avais appelé... pour qu'on fasse les papiers, et le vendredi soir, je me retrouvais avec 3 gendarmes en rangers dans ma chambre. C'était quand même assez incroyable, quoi. Mais même eux, hein, à voir leur tête, ils ont trouvé ça assez incroyable de tomber sur une femme à 2 minutes dans un lit avec un nourrisson et le placenta accroché encore au bébé dans une bassine. Ils sont un peu hallucinés. C'était étonnant comme configuration. Et bon, ils ont dépêché une ambulance et allez hop, il fallait aller à l'hôpital 2 fois. Décision du procureur. Hein. L'ambiance à la maison après la naissance du petit, c'était un grand silence, enfin, très peu de lumière. Vraiment en mode tanière, quoi. Donc l'arrivée des gendarmes, maintenant ils n'ont plus des grosses maglites, ils ont des petites lumières à LED sur leur et puis ils viennent avec les gilets pare-balles et tout, quoi, hein, parce qu'ils savent pas trop pourquoi ils viennent, j'ai l'impression, juste que le procureur leur demande de venir, donc ils arrivent un peu en mode comme si on était des réfractaires de ouf, quoi. Donc ils arrivent en disant de toute façon, si vous ne voulez pas venir, on vous le dit tout de suite, le petit, il ira. Donc c'est-à-dire qu'en peu de temps, on peut s'imaginer que quoi, que en fait ils vont arracher le petit de la mère, que qu'est-ce qui se passe quoi, d'un coup d'un seul, on est en mode tanière et puis là, là il y a des injonctions, il y a des choses, ouais, c'est un peu violent. Ouais. Mais bon, comme moi j'étais dans un mood très serein, j'ai fait ah, pas de souci, je vais y aller, je vais venir avec vous, on va y aller avec le petit, le papa va rester là, donc déjà ça faisait une ça faisait une rupture du lien, quoi. Et voilà, et après on y va. Et puis comme moi j'avais déjà été confrontée à des personnes, du personnel de santé, j'étais plutôt bien ancrée, quoi. Je voulais pas qu'on touche au petit. Moi, on pouvait me faire des tests et tout ce qu'on voulait, mais je voulais pas qu'on touche au petit. Et finalement, à Foix, ils ont été très bien. Alors oui, moi j'avais accouché à Foix de ma première, donc 18 ans avant, 19 ans avant, qui était décédée. Et j'avais été très mal épaulée là-bas, donc ça me faisait bizarre de retourner là-bas. C'était une drôle d'expérience, donc j'aurais dit que j'avais pas du tout envie d'être là. Mais moi, mes demandes qu'on laisse le petit tranquille, qu'on lui fasse les examens de façon. Il a eu la lumière dans les yeux dès l'arrivée, quoi. Mais la torche du portable, je sais pas si c'est très légal de faire ça. Enfin bon. Ouais, c'était un peu dur. C'était un peu dur l'arrivée là-bas, 23h et tout, avec tous les tests. Ouais, c'était couper le cordon, bim bam. Ouais, tout ce qu'on avait mis en place, ça s'est tout effondré en pas longtemps, quoi. Ouais, c'était quand même quelque chose, quoi. Et voilà, mais c'était quand même assez bien parce que le personnel, ils ont été vraiment super. En plus, ils ont été très étonnés de notre arrivée avec les gendarmes escortés et tout. Ils ont été un peu choqués aussi de la façon dont ça s'est fait. Et on a pu bien discuter. Et ils ont été assez ouverts. Ils n'étaient pas tous d'accord. Certains pensaient qu'on prenait des risques. D'autres pensaient qu'à l'époque, on le faisait et que ça se passait très bien. Enfin, il y avait un peu tous les sons de cloche. Après, ils ont été super. Ils nous ont gardés. Donc, on est arrivé dans la nuit du vendredi. Ouais, vraiment en pleine nuit, quoi. Et on est rentré le dimanche à la maison. Donc, super. Je pense qu'il faut désobéir, il faut reprendre possession de ça. Oui, parce qu'on nous dépossède, on nous dépossède de ça. Enfin, c'est quand même assez dingue que ce soit si mal vu, si contrôlé. En fait, c'est contrôlé. On contrôle la grossesse, on contrôle tout, quoi. On regarde tout, on contrôle tout. On fait peur pour rien. Enfin. Et oui, peut-être qu'il faut désobéir et se réapproprier notre droit de mettre au monde nos enfants comme on l'entend. En fait, notre corps, il sait faire. Les papas, ils savent accompagner. Il n'y a pas besoin de se préparer. C'est difficile de se préparer. On peut préparer un paquet de couches, on peut préparer des serviettes, des langes, mais... Mais après, c'est tellement instinctif ce qui se passe à ce moment-là qu'on sait le faire. Et le fait de laisser à d'autres la responsabilité. Oui, il faut voir, oui, c'est sûr, ils sauvent sûrement des vies, des mamans, des enfants, certainement. Mais si vous le sentez, faites-le, quoi. N'ayez pas peur. Si quelque chose ne va pas, vous le sentez. Faut s'écouter, faut être à l'intérieur de soi. C'est la vie, quoi.
Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer coronitas para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! c'est comme la petite tchaka-pouma tchaka-pom. Pouma tchaka-pouma tchaka-pouma tchaka-pom. Pouma tchaka-pouma tchaka-pouma tchaka-pom. Pouma tchaka-pouma tchaka-pouma tchaka-pom. Dorme, dorme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Dorme, dorme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí. Trabajando y no le pagan, trabajando, sí. Trabajando y va tosiendo, trabajando, sí. Trabajando y va de luto, trabajando, sí. Pa'l negrito chiquitito, trabajando, sí. Pa'l negrito chiquitito, trabajando, sí. No le pagan, sí. Va tosiendo, sí. Va de luto, sí. Duramente, sí. Que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito. Que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer codornices para ti. Te va a traer rica fruta para ti. Te va a traer carne de cerdo para ti. Te va a traer...
Retrouvez Entre nous soit dit tous les mardis à 15h sur Comme une fréquence et en podcast sur communefréquence.fr.